Les débats sur le projet de loi sur la fin de vie ont repris après une longue interruption suite à la dissolution de juin 2024.
Et oui, l'heure est grave puisque les députés de la Commission des affaires sociales ont adopté à 28 voix contre 15 la proposition de loi relative à la fin de vie ouvrant la voie à l'euthanasie et au suicide assisté. Et ça s'est fait dans ce courant de ce petit pont du mois de mai, vendredi, très exactement, vendredi 2 mai. Alors, nous sommes aujourd'hui avec Benoît Dacre-Reit. Vous êtes... délégué, on peut dire, pour Alliance
oui,
Vita.
Délégué pour délégué la Haute-Garonne.
Pour la Haute-Garonne. Alors, depuis un certain nombre de semaines, vous faites des opérations de tractage dans les rues. Vous invitez à une mobilisation générale, et notamment le 12 mai prochain, vous invitez à une grande mobilisation à Toulouse, à Bayonne et Pau, pour expliquer que là, l'enjeu est particulièrement important.
Oui, oui. Donc, ce sera à Toulouse, ce sera à 18h au métro Palais de Justice. Et en effet, il est important de prendre conscience de la gravité de ce projet de loi. Il y a eu une distinction de deux projets de loi. C'était important.
Alors ça, c'était un souhait du gouvernement Bayrou.
Un souhait du gouvernement Bayrou, mais qui répondait aussi à un besoin de bien distinguer une logique de soins et d'accompagnement des personnes, le projet de loi sur l'accompagnement et les soins palliatifs, où là on est dans le domaine du soin et de l'accompagnement, et ce projet de loi qui veut masquer le suicide assisté et l'euthanasie derrière le terme d'aide à mourir, et qui fait que les gens ne savent plus vraiment de quoi on parle.
Il y a une grande confusion.
Il y a une confusion. Or, avec ce texte, donc ce deuxième texte, le risque, c'est de mettre totalement en péril la prévention du suicide et l'accompagnement réel des personnes justement confrontées à des situations difficiles.
Alors on va regarder justement qu'est-ce que prévoit ce texte, parce qu'il y a un certain nombre de mots qui sont vraiment des mots clés, et puis il y a des critères qui ont été fixés et qui donnent justement qui ouvrent la porte à l'euthanasie et au suicide assisté. En commission des affaires sociales, les députés, donc le 2 mai dernier je le disais, ont fixé les critères cumulatifs d'accès à l'aide active à mourir. Donc il y a déjà ce terme hein, qui ne veut pas dire ni suicide assisté ni euthanasie. Il y a quand même. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être, Benoît Dacre-Reit, nous rappeler ces cinq critères?
Alors, les critères. Bon, il y a des critères d'être âgé d'au moins 18 ans, donc être majeur. Mais il y a surtout le critère d'une atteinte d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, et qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Ce critère-là.
Le critère de pronostic vital.
Le critère de pronostic vital.
Et en phase avancée ou terminale.
D'affection grave et incurable en phase avancée ou terminale. C'est des critères extrêmement larges et flous. Et en fait, tout médecin dira, mais on peut faire rentrer beaucoup de choses là-dedans. On se rend compte que dans l'examen de ce projet de loi, en permanence, il y a eu des extensions, des dérives. Donc les personnes, les promoteurs de ce projet de loi, de cette proposition de loi, prétendent définir un cadre pour rassurer. Et en fait, ce cadre est totalement illusoire. Dans les pays où a été légalisée l'euthanasie ou le suicide assisté, on voit que le cadre n'a cessé d'évoluer ensuite. Hein, ça a été ouvert en Belgique. Ça a été ouvert ensuite aux personnes mineures, ça a été ouvert aux personnes âgées et qui étaient fatiguées de vivre. Enfin,
on le voit aussi au Canada avec beaucoup de dérives. Hein, ouais.
Et donc, les critères ne cessent d'être étendus.
Et pour ce critère de phase avancée, concernant le pronostic vital qui doit être engagé en phase avancée ou terminale, comment parce que le précédent projet parlait juste d'un pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Voilà. Qu'est-ce que ça change exactement?
Alors, à court ou moyen terme, c'était déjà compliqué. Ouais. Le moyen terme... c'est relativement flou, mais ça voulait dire qu'il y avait quand même une logique de délai définie. Là, il n'y a aucune notion de délai. Donc, on est face à des affections chroniques ou qui peuvent, à terme, effectivement
aboutir à la mort,
potentiellement à un décès. C'est un pronostic vital, c'est pas une certitude, et on se retrouve devant un ensemble de pathologies où les personnes, parce que cette pathologie est complexe à affronter, peuvent avoir des périodes de déprime, de dépression, et on va leur dire ben oui, vous rentrez dans le cadre. Donc comment est-ce qu'on va accompagner ces personnes-là, entendre leur détresse, parce qu'il faut pouvoir entendre cette détresse et pouvoir y répondre de façon appropriée, de façon ajustée. Or ce dont on s'aperçoit pour les personnes qui rentrent en service de soins palliatifs et qui demandent justement, faut que ça s'arrête, est-ce que je peux
qui demandent un soulagement de la souffrance,
solutions. Voilà. Est-ce qu'il y a des solutions pour abréger ma vie parce que je veux que ça s'arrête? Et en fait, leur motivation est... une étude a été faite là-dessus. En majorité, c'est la peur d'être un poids excessif pour leurs proches, la peur du regard qui va être porté sur eux et la peur de donner une image d'eux-mêmes intolérable. C'est-à-dire, ça voudrait dire que les personnes qui les regardent trouvent ça intolérable de voir leur détresse. Et la peur d'une vie qui n'a plus de sens, et puis la peur d'être confronté à des souffrances intolérables. Il faut entendre ces peurs, il faut entendre cette détresse et y répondre. Et dans les services de soins palliatifs, la très très grande majorité de ces situations, la demande de fin de vie disparaît parce que les personnes sont prises en charge. Donc ce qu'il faut, c'est mettre en place les moyens de prise en charge. Or, le drame aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est que notre système de santé est en crise, est en tension. Les personnes ont du mal à se faire soigner. On a fait une opération digitale depuis quelques mois où on a recueilli des milliers de témoignages de personnes qui ne trouvent plus, n'arrivent plus à retrouver un médecin traitant, qui ne sont pas prioritaires aux urgences et qui sont confrontés à des risques. Des risques
de ne pas être soigné,
de pathologie, de ne pas être soigné, qui ne trouvent plus de spécialistes, qui n'arrivent plus à avoir de rendez-vous chez les spécialistes. Et surtout, dans le domaine des soins palliatifs, 50% des personnes qui devraient avoir droit aux soins palliatifs n'y ont pas accès. Donc on a une inégalité d'accès aux soins palliatifs, une insuffisance de développement. Il y a plein de départements qui n'ont pas encore d'unité de soins palliatifs, et il y a l'an dernier, il devait y avoir 9 nouvelles unités de soins palliatifs dans 9 départements qui se mettent en place. Seuls 3 ont été mis en place. Les moyens augmentent très, 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 très peu. Il y a une insuffisance de moyens. Et sur 4 ans, les moyens n'ont augmenté que de 3%. Donc, on est face à une incapacité à répondre aux besoins. Et à ces personnes à qui on n'est pas en mesure d'offrir une prise en charge, dirait ben, vous avez le suicide assisté.
Voilà. Ouais.
C'est profondément injuste, en fait. C'est ce qui se passe au Canada. Au Canada, ils ont légalisé le suicide assisté et l'euthanasie. Et en fait, les personnes y ont recours. En majorité, ce sont des personnes pauvres. Et une grande partie de ces demandes, c'est parce qu'ils n'en trouvent plus les moyens de se soigner. Ils n'ont pas les moyens financiers de se faire soigner correctement et ils demandent l'euthanasie parce que ça devient intolérable.
Donc
je
là,
ne
on
veux
peut pas parler...
que notre société devienne ça.
Oui, on ne peut pas parler d'un geste de fraternité comme le président de la République l'avait évoqué. En tout cas, on n'est pas du tout
d'abandonner, de laisser de côté, de laisser sur le bord du chemin des personnes qui ne vont pas avoir accès à une prévention de la désespérance, une prévention du suicide et qui vont être finalement... Si on leur offre ça comme seule issue, mais où est cette prétendue liberté ?
Oui, c'est ça. Et alors, dans ce texte, donc ce projet de loi qui va être maintenant débattu à l'Assemblée nationale le 12 mai, il y a cette expression de souffrance psychologique. Elle a été longuement débattue par les députés. Quel risque entraîne cette formulation, Benoît Dacquerhart ?
Alors, c'est la souffrance physique ou psychologique, donc ça peut être uniquement une souffrance psychologique liée à cette affection et qui soit réfractaire au traitement ou insupportable selon la personne si elle choisit de ne pas recevoir un traitement. Autrement dit, c'est un critère totalement subjectif lié à la personne et qui peut être lié à une souffrance psychologique. Je ne dis pas qu'il faut minimiser cette souffrance psychologique. Elle peut être effectivement terrible.
Importante.
Et doit être prise en charge. Mais il faut justement pouvoir répondre à cette souffrance et qu'elle ne devienne pas un critère. Une personne qui déciderait, confrontée à une maladie, de refuser les soins, de refuser les calmants, et qui ensuite dirait « c'est intolérable, je veux accéder au suicide », eh ben c'est un moyen finalement de revendiquer
un moyen de pression finalement vis-à-vis des médecins,
alors que on pourrait être en mesure d'y répondre. On voit une sorte de chantage au suicide qu'on a pu voir dans le passé, dans des cas comme celui de Chantal Sébir, qui refusait les soins antalgiques qu'on était en mesure de lui proposer et qui ne se soignait qu'avec du Doliprane et qui du coup disait c'est intolérable. Comment est-ce que, confronté à des situations comme celle-là, comment est-ce qu'on va par ailleurs répondre aux attentes légitimes de personnes en détresse et qui désespèrent, et comment est-ce qu'on va pouvoir faire une prévention ajustée du suicide en leur offrant d'autres voies, d'autres solutions.
Et puis il y a aussi cette question, et vous l'avez évoqué au début de notre entretien, c'est cette question de la prévention du suicide, puisque finalement là vous dites qu'une personne qui souhaite ne pas se soigner peut demander le suicide, et comment tenir d'un côté l'interdit du suicide et le fait qu'on fasse tout pour que les gens ne se suicident pas, et puis finalement proposer cela dans un cadre hospitalier.
Alors, c'est pas un interdit du suicide, c'est un interdit de promotion du suicide et un devoir de prévention.
Oui.
Et c'est ça qui est remis en cause. Le texte tel qu'il a été déposé introduit un délit d'entrave au suicide assisté. C'est-à-dire, et ce délit d'entrave inclut la pression morale et psychologique. C'est-à-dire qu'une personne qui, face à la désespérance d'un patient et à sa demande de suicide, rentrerait en dialogue pour essayer de comprendre et essayer d'identifier les causes, donc une approche psychologique d'aide, eh bien, elle pourrait être attaquée comme faisant obstacle à sa demande de suicide. Comment est-ce qu'on est en train d'exclure les personnes les plus fragiles, les plus souffrantes, de la prévention du suicide? Je trouve ça profondément injuste.
Ah oui, bien sûr. Oui, on en est encore.
Il y a vraiment un risque énorme. Et je pense que ce projet de loi fait courir un risque énorme à notre société et à la solidarité, à la fraternité de notre société. Est-ce qu'au nom de la liberté de quelques-uns, on va ruiner la fraternité de notre société? Il faut vraiment faire attention aux conséquences d'un tel projet de loi.
Et puis, un dernier mot quand même sur cette clause de conscience dont bénéficient les médecins, puisque dans ce projet de loi, elle est limitée.
Oui, alors, il existe une clause de conscience qui est annoncée, mais elle ne concerne d'abord que les médecins. Les pharmaciens qui seraient amenés à délivrer le produit létal, eux ne bénéficient pas de la clause de conscience. Il y a beaucoup de pharmaciens qui sont qui contestent ça, et l'accès à la clause de conscience pour les pharmaciens, c'est toujours un débat. Et là, ils sont en première ligne, puisque dans le suicide assisté, il suffit de délivrer le produit et c'est la personne qui se l'administre. Donc ils sont vraiment en première ligne. Et la clause de conscience, elle ne concerne pas non plus les établissements de santé. C'est-à-dire qu'un établissement privé de soins qui choisit de ne pas mettre en œuvre ces dispositifs parce qu'il met la priorité sur le soin palliatif, l'accompagnement, etc.
Donc cet établissement sera hors la loi, finalement.
Cet établissement sera hors la loi. Il sera contraint d'accueillir des médecins prêts à pratiquer l'euthanasie pour offrir ce, entre guillemets, service dans leur mur.
Donc voilà, il ne faut pas rester muet. Alliance Vita appelle à une grande mobilisation à Toulouse, Bayonne et Pau lundi 12 mai. Tous les renseignements sur le site d'Alliance Vita. Et puis, Alliance Vita invite aussi à écrire, que chacun écrive à son député pour défendre la vie jusqu'à son terme naturel. Merci Benoît Dacre-Reit. Je rappelle que vous êtes le délégué de Haute-Garonne d'Alliance Vita.
Merci.